Vous écoutez RTL.
Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris.
Patrick Stinson with breaking news coverage. Princess Diana is seriously injured and two other people have died.
De Lady Diana, le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris.
Bonjour, nos plus belles histoires d'amour sur RTL. Comme chaque week-end cet été, une heure avec vous pour raconter, partager ces destins heureux ou brisés, ces romances que la célébrité a un jour mises à la lumière pour les transformer en photos de magazine sans pourtant révéler ce qui se passait dans la coulisse, sans savoir pourquoi la destinée de ces hommes et de ces femmes allait un jour basculer. Avec aujourd'hui, une princesse. Un sourire triste que tout le monde aimait et qui a changé l'histoire de tout un peuple.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard.
Nous sommes en janvier 1979, un froid week-end au château de Sandringham. Dans ce décor champêtre de bosquets et de vallons au cours des ruisseaux, la reine Élisabeth a invité une cinquantaine de privilégiés pour une chasse aux cerfs. Les sœurs Spencer, Diana, 17 ans, et son aînée Sarah, 24 ans, sont de la partie, une tradition. Depuis 4 siècles, les Spencer figurent comme l'une des familles les plus proches de la couronne. Leur domaine d'Althorpe n'est d'ailleurs qu'à quelques kilomètres de la résidence royale. Diana est enjouée et excitée. Elle a toujours adoré les fêtes et les réceptions, les robes de soirée et l'éclat des lustres de cristal. C'est Charles qui a invité les deux sœurs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il les croise. 2 ans auparavant, il avait demandé à Sarah de lui faire visiter le domaine d'Althorpe. À l'époque, la toute jeune Diana avait observé de loin l'héritier du trône. « Qu'est-ce qu'il est triste », avait-elle pensé. Cette fois, ce n'est plus vers Sarah que se dirige Charles, mais vers Diana, resplendissante. Tellement timide qu'elle ne peut pas s'empêcher de rougir lors de ce tête-à-tête. Le prince demande à la revoir. Dans les semaines qui suivent, il se rend régulièrement à l'appartement londonien de la jeune femme au 69 Cadogan Place. L'emmène au théâtre ou au cinéma. La presse n'est pas encore aux trousses de cette belle inconnue qui vient d'avoir 18 ans, n'a apparemment pas de petite amie, écoute en boucle ABBA et court les grands magasins, la vie insouciante d'une petite fille riche.
The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense.
Elle a parlé à sa sœur des visites du prince Charles et de son invitation à dîner. Le clan Spencer ne peut voir que d'un œil conciliant ce royal rapprochement. Même s'il n'y a pas encore entre eux de véritable histoire d'amour, un lien de confiance s'est peu à peu tissé. Diana ne le sait pas encore, mais une autre femme occupe depuis longtemps les pensées du prince, Camilla Parker Bowles, et sa vraie dame de cœur. Un amour déçu et impossible, une femme mariée à qui Charles a déjà demandé de divorcer pour l'épouser. Elle a refusé, non pas parce qu'elle n'éprouve pas de sentiments pour lui, c'est tout le contraire, mais parce que cette union, dit-elle, risquerait de faire scandale et de nuire à la monarchie britannique. Charles doit être réaliste. Il ne se mariera jamais avec Camilla, mais le temps presse, il va avoir 30 ans et l'obligation d'un mariage se précise. La cadette des Spencer, 12 ans de moins que lui, est le plus honorable des partis. Mais il n'est pas sûr de lui. Il n'arrive pas à se décider. La valse hésitation va durer un an. Pendant ce temps, Diana prend de l'assurance. Au fil des mois, elle s'est métamorphosée. Elle affiche une chevelure blond platine et même sa démarche paraît plus sûre. Parfaitement prête, avec son regard bleu, à séduire Charles et à suivre ce destin qui pourrait l'amener jusqu'à Buckingham Palace. Juillet 1980, elle vient applaudir le prince à un match de polo, puis tout s'enchaîne, une croisière sur le yacht de la couronne, le Britannia, un séjour au château de Balmoral en Écosse, invité personnel de la reine, un bal de charité où elle danse avec Charles. Cette fois, les spécialistes de Buckingham et les tabloïds commencent sérieusement à s'interroger sur une possible romance. Diana devient une proie, traquée par les paparazzi et les caméras. Plus de 6 mois de spéculation et de photos volées. Jusqu'à ce 21 février 1981, où la cérémonie de fiançailles est officiellement annoncée. Charles, costume gris, et Diana, robe bleu pervenche, posent pour les photographes. Tout le monde note son sourire et son incroyable fraîcheur.
Just delighted and happy. I'm amazed that she's... been brave enough to take me on.
And I suppose in love.
Of course.
Whatever in love means.
Oui, je suis tombée sous son charme, avoue Charles. Oui, nous sommes amoureux, répondent les fiancés. Elle est le nouveau visage d'une monarchie poussiéreuse. Avec elle, la couronne va se moderniser, entrer dans ce 21e siècle qui arrive à grands pas. 5 mois plus tard, le 21 juillet, elle entre au bras de son père dans la cathédrale de Canterbury, remonte les 200 mètres de tapis rouge et s'arrête à hauteur de Charles.
Alors Ronald Ramsay, l'archevêque de Canterbury, s'est approché des deux jeunes gens pour leur poser la question traditionnelle. Charles-Philippe Arthur-George, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse, pour vivre avec elle selon la prescription de Dieu dans les liens sacrés du mariage? Diana Francis, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux?
Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman for thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony?
I will.
Diana Francis, wilt thou have this man for thy wedded husband, to live together according to God's law, in the holy estate of matrimony?
I will.
Elle est la nouvelle princesse de Galles, saluée par une immense clameur sur le parvis.
Ces clameurs, effectivement, ce sont celles de milliers de personnes qui ont déferlé spontanément en s'embousculade vers Buckingham Palace pour tenter d'apercevoir, peu après 14 heures, le prince et la princesse de Galles au balcon d'honneur du palais royal. Charles et Diana sont apparus enfin devant cette foule en délire, souriant, détendu, rayonnant de bonheur et se tenant par la main comme tous les amoureux du monde.
Les bravos, la musique de Handel et la voix de la soprano Kiri Tekanawa, au balcon de Buckingham, la mariée sourit et embrasse son époux. À partir de là, le prince et la princesse allaient vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, mais pas dans ce conte de fées qui va tourner à l'affrontement.
Nos plus belles histoires d'amour sur RTL. Les amours de Diana.
3 ans après le mariage, la photo officielle de Charles et Diana côtoie les portraits des galeries d'ancêtres. Une famille unie. Le couple pose en compagnie de ses deux garçons, William et Henry, très vite surnommés Harry. Mais le cliché est trompeur. Le château de Balmoral, où ils ont séjourné juste après les noces, est devenu celui des faux-semblants et des non-dits, tout comme les palais de Kensington et de Highgrove, où désormais leur vie se déroule. Dans ces immenses demeures, froides et sombres, Diana apprend la solitude et l'enfermement. Elle, qui depuis l'enfance n'est habituée à n'en faire qu'à sa tête, doit composer avec son métier de princesse. Les politesses forcées, les usages, le protocole. Elle s'ennuie tellement qu'elle s'amuse à faire du patin à roulettes dans les interminables couloirs de ses châteaux. Elle n'aime ni la chasse, ni la pêche, ni l'opéra, où Charles l'emmène parfois. Elle ne raffole pas non plus des dîners privés en smoking et robe de soirée, où quelques stars du lyrique, comme Placido Domingo, viennent donner de la voix. Rarement, elle parvient à entraîner son mari dans les clubs à la mode, où elle pourrait danser jusqu'à l'aube. La différence d'âge, pense-t-elle secrètement. Dans le meilleur des cas, il accepte de l'accompagner à quelques concerts de rock, Stephen Stills ou Eric Clapton, où les photographes n'ont Dieu que pour cette beauté un peu triste. Aucune détestation entre les époux, mais imperceptiblement, c'est l'indifférence pour lui, la mélancolie pour elle, qui guide leur destinée.
But if you find someone you love in life, you must hang on to it and look after it. And you were very lucky to find someone. If you were lucky enough to find someone who loved you, then one must protect it.
Quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime, cela vous rend plus fort, dit Diana à propos de ses enfants. Le message va bien au-delà. C'est un appel à l'aide. Malgré ses Anglais qu'il adore et guette chacune de ses apparitions, Lady Di éprouve de plus en plus de difficultés à sourire. Elle tente de faire bonne figure en se jetant à corps perdu dans son rôle protocolaire de princesse de Galles. Inauguration de fondation, visite d'hôpitaux et d'orphelinats, cocktail officiel avec les grands de ce monde, toujours seule. Dans le secret de Kensington Palace, alors que Charles séjourne de son côté au château de Highgrove, elle déprime. Son corps suit les soubresauts de son âme, boulimique et anorexique, parfois tellement absente que ses meilleurs amis s'inquiètent.
I didn't like myself. I was ashamed, but I couldn't cope with the pressures. And that's like a secret disease you inflicted upon yourself because your self-esteem is at a low ebb and you don't think you're worthy or valuable. Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful.
J'avais honte de moi. C'est comme une maladie secrète que vous vous infligez à vous-même. Je crois être dans cette famille la seule personne qui a avoué être en dépression, la seule personne qui a pleuré devant tout le monde. Charles lui demande sans cesse de tenir son rang, de ne rien montrer. La prisonnière, comme la surnomme parfois ceux qui la côtoient, va ainsi dépérir 5 longues années. La traque de la presse à scandale lui rend la vie insupportable. La maison des Windsor prend peu à peu des airs de Dallas. Les photos acidulées de William et Harry ne parviennent même plus à sauver les apparences. Le scandale n'est jamais très loin, à croire d'ailleurs que la princesse, éreintée par le silence et la solitude, le cherche. Un soir, à un concert de David Bowie, on la voit poser la tête sur l'épaule du jeune major David Waterhouse. Puis elle se lance dans une romance secrète avec un capitaine de la garde royale, le major James Hewitt. Elle a eu pour lui un coup de foudre. Elle joue avec le feu, mais peu importe. Elle a le sentiment de remonter à la surface et de reprendre son souffle, même si la presse révèle alors publiquement que le couple princier n'a pas passé une nuit ensemble depuis 5 semaines. Charles fait mine de ne rien savoir. Cette situation pourrait même lui convenir, car en cette année 1987, l'héritier de la couronne goûte lui aussi à l'adultère. Il a renoué avec son véritable amour, Camilla. Celle-ci est l'invitée permanente du château de Highgrove. Elle y passe des jours et des nuits. Les deux amants se cachent à peine. Diana a découvert cette liaison en se présentant un matin au château. Elle a tout juste eu le temps de voir partir Camilla en voiture. Elle aurait pu accueillir la nouvelle avec distance, voire avec un réel soulagement. La voilà brisée, trahie, humiliée, mais elle ne veut rien montrer.
I hope we can now look forward to the future and not hang on to the past.
I see. It means you have confidence in the future?
I do. Thank you very much. I do.
Le passé est le passé, dit-elle. J'ai confiance en l'avenir. La suite, pourtant, ne va être qu'une longue glissade vers le chaos. L'affaire Camilla éclate au grand jour et un livre sulfureux du major Hewitt sur Diana fait scandale. En cette année 1992, la maison royale brûle, au propre comme au figuré, avec cet incendie au château de Windsor et la séparation de Charles et de Diana. Leur mariage, célébré 11 ans plus tôt, devait régénérer la monarchie. Il l'entraîne vers les abîmes. Élisabeth II a tranché en personne cette séparation. 1992, Annus Horribilis, année horrible, dira la reine dans son discours de fin d'année. Pas pour Diana, qui se sent soudain délivrée du poids des mensonges, mais va devoir traverser d'autres épreuves pour pouvoir vivre, enfin, une grande histoire d'amour.
Restez avec nous. La suite de nos plus belles histoires d'amour, dans un instant, sur RTL.
Septembre 2016, juin 2017, saison record pour RTL. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 15 ans.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci. Merci à tous.
RTL, c'est chaque jour près de 6 600 000 auditeurs. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et bel été sur votre radio préférée. RTL. Première radio de France. Nos plus belles histoires d'amour sur RTL.
Après sa séparation de Charles, Diana pressent que cette nouvelle vie va être exaltante, chargée de belles promesses. Elle, qui sort d'une décennie de solitude, de dépression, d'abandon et de pensées suicidaires, goûte à la lumière. Elle voyage en solitaire pour la bonne cause, la Croix-Rouge, l'UNICEF, les déshérités, les enfants malades dans les hôpitaux. Elle redevient la princesse du peuple comme l'aiment les Britanniques. Elle s'amuse sans se cacher. Concert d'Elton John, un ami, un intime, ou à une représentation de la comédie musicale Grease.
I got chills, they're multiplying, and
Mais il est temps pour elle d'arrêter le temps et de mettre fin à l'hypocrisie. Car depuis la séparation, les rumeurs les plus folles courent. On lui prête des escapades, des amants secrets.
On sait qui est l'homme en noir que Diana va chercher la nuit, qui bondit dans sa voiture, se cache derrière les sièges et qu'elle ramène ensuite dans son palais de Kensington. C'est Christopher Wally, un promoteur immobilier de 40 ans, célibataire playboy, qu'elle a rencontré à son club de gym il y a plus d'un an et demi. On les avait vus dans des restaurants. Le promoteur playboy avait minimisé l'affaire en laissant tomber « Oui, nous sommes amis, et alors ?»
Sans prévenir, elle accorde donc une interview fleuve à la BBC où elle livre d'une voix effacée et triste sa vérité. Raconte l'histoire du couple infidèle qu'elle formait avec Charles, la présence de Camilla et l'effroi qu'il a saisi quand son beau major Hewitt a déballé leur histoire dans un livre.
« Were you unfaithful ?»«
Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. » But I was very let down.
Avez-vous été infidèle ? Oui, je l'adorais. J'étais amoureuse de lui. Mais il m'a vraiment laissé tomber. Elle aussi, donc, a commis le péché d'adultère. Mais elle a eu moins de chance que Charles. Lui, au moins, Camilla l'aimait. Lady Di raconte sa déception que le major ait vendu leur histoire pour de l'argent. C'est lui qui a fait écrire le livre « Princesse amoureuse ». Il m'avait prévenu 10 jours avant. M'avait dit que je n'avais rien à redouter. Et stupidement, je l'avais cru. Elle a été horrifiée quand elle a vu qu'un homme qu'elle avait aimé avait fait de l'argent avec son amour. Je n'ai eu qu'une envie, courir auprès de mes enfants. Lorsqu'elle est arrivée près de William, son fils aîné qui avait 12 ans, il lui a tendu une boîte de chocolat et lui a dit « Je crois que tu as été blessée, maman. C'est pour te faire sourire de nouveau. »
Nous étions 3 dans ce mariage et cela faisait beaucoup de monde, ajoute Diana. Se doute-t-elle alors qu'elle vient de donner le pire des coups de poignard à la monarchie ?
Une nouvelle fois, le Noël de la famille royale britannique au château de Sandringham risque de se dérouler dans une atmosphère pour le moins pesante. La reine ayant demandé officiellement à Charles et à Diana de divorcer après 3 ans de séparation et une interview de la princesse à la BBC qui visiblement n'a pas du tout été du goût de la souveraine.
Le divorce, procédure accélérée par consentement mutuel, sera officiellement prononcé 6 mois plus tard, le 28 août 1996, par un banal coup de tampon dans la salle d'un tribunal de Londres et le versement d'une somme de 20 livres. Point final à son exposition publique, tout au moins, le croit-elle. Comme elle croit aussi qu'elle va pouvoir s'afficher avec l'homme qu'elle aime, un chirurgien pakistanais de 39 ans, Asnath Khan. Elle l'a rencontré alors qu'elle visitait le Royal Brompton Hospital de Londres. Elle venait prendre des nouvelles d'un ami qui venait de subir un triple pontage. Le docteur Khan n'a d'abord pas reconnu la princesse de Galles. Il l'a rassurée sur le bon déroulement de l'intervention et le cœur de la jeune femme s'est aussitôt mis à battre à la chamade. Dès lors, elle va multiplier les visites à l'hôpital, assiste à des opérations, entre peu à peu dans la vie intime du médecin qu'elle admire et surnomme Mr. Fabulous, Monsieur Fabuleux. Ils deviennent amis, puis amants. Quand elle va chez lui, Diana, qui a toujours sur ses basques une poignée de paparazzi, se déguise, porte des perruques brunes, des lunettes de soleil. Elle fait tout pour protéger Asnath Khan, un homme discret et sérieux qui déteste toute forme de spectacle et ne supporterait pas un déballage public. Diana est follement amoureuse, prête à toutes les concessions pour pouvoir épouser son chirurgien. Avec lui, elle est apaisée, équilibrée. Leur liaison est étonnamment sereine avec ses sorties dans des clubs de jazz et de petits restaurants italiens. Elle parle de lui au célèbre professeur Barnard, l'homme de la première transplantation cardiaque. Elle lui vante ses mérites au cours d'une conversation où elle cache à peine ses sentiments, son désir de refaire sa vie, celui d'aller s'installer avec Khan en Afrique du Sud, de se remarier. Elle se rend ensuite en visite privée au Pakistan pour visiter un hôpital, avec l'espoir de pouvoir approcher la famille de son amant. Mauvaise idée, à Lahore, celle-ci n'est pas disposée à voir le meilleur de ses fils se marier avec une étrangère, même avec une femme qui a failli monter sur le trône d'Angleterre. Diana ne se décourage pas. Quelques mois plus tard, elle rencontre en tête-à-tête la grand-mère de l'homme qu'elle aime. La rencontre lui laisse espérer une issue heureuse, mais elle en fait trop. Cette quête amoureuse, désespérée, va tout simplement dicter sa tragique destinée.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
Asnat Khan, l'homme avec qui Diana rêve de se marier, est effaré par l'obstination de la princesse et de plus en plus inquiet par la tournure prise par les événements. Diana est désormais omniprésente dans son existence, ne supporte pas de le quitter plus d'une heure, lui téléphone en permanence, n'accepte pas qu'il soit en relation avec sa famille ou ses amis. Elle veut désormais être son unique centre d'intérêt. Ne lui a-t-elle pas présenté ses enfants, William et Harry ? Et n'est-ce pas là le plus beau signe de son engagement, de sa volonté de bâtir ensemble une vie future ? Le docteur Khan se sent subitement dépassé par les événements qui se précipitent, comme cette invitation pour qu'il vienne vivre à Kensington Palace, ou encore le troisième voyage que fait Diana à son insu au Pakistan pour y rencontrer directement ses parents et les convaincre de provoquer le mariage. Échec cuisant. La rumeur commence à courir, la liaison éclate en gros titre à la une du Sunday Mirror. Terrorisé, Asnat Khan va rompre les ponts, retourner au Pakistan et se cacher pendant plusieurs mois. Diana vient de perdre son Mr. Fabulous, qui la rendait si légère. Fin juin 1997, elle est seule et effondrée à Kensington Palace. Elle voit s'échapper sa plus belle histoire d'amour, incrédule face à ce coup du sort. Comme elle avait en son temps essayé de rattraper Charles, elle veut croire que Asnat reviendra. Pour le savoir, elle va le provoquer à distance, sous le soleil de la Côte d'Azur, où elle va aimer un autre homme. Une semaine après sa rupture avec Asnat Khan, 10 mois après son divorce de Charles, Diana arrive à Saint-Tropez, avec ses deux fils, pour se changer les idées. Ce 1er juin 1997, le ciel est sans nuages, la Méditerranée lumineuse. Saint-Trope vit déjà au rythme de l'été et de la jet-set. Elle a accepté l'invitation de Mohamed Al-Fayed, richissime égyptien, ami de longue date de la famille Spencer, un très proche même. Au père de la princesse, alors mourant, il avait promis qu'il s'occuperait des siens. Autant dire que Diana est chez Al-Fayed comme chez elle. Pour cette occasion particulière, Mohamed Al-Fayed a demandé à son fils Dodi de les rejoindre. La princesse et ce playboy qui investit dans le cinéma se sont souvent croisés au cours de matchs de polo, de galas de charité et diverses mondanités. Mais Diana, cette fois, est bel et bien décidée à le séduire et à le faire savoir. Voudrait-elle ainsi envoyer un message au docteur Khan pour le rendre jaloux et le retrouver ? Entre mer et soleil, Corse, Sardaigne, crique secrète et club privé où elle danse sur du Michael Jackson, Diana dévoile son numéro de charme. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. La nouvelle de cette idylle estivale se répand aussitôt.
Dodi, 41 ans, est le fils de Mohamed Al-Fayed, le richissime égyptien propriétaire du célèbre grand magasin Harrods. Dodi est donc milliardaire lui aussi, avec des pieds-à-terre à Los Angeles, New York, Londres, avec les voitures qu'il faut, Ferrari, Rolls et Mini, et de nombreux amis de Kou Stark, ex-petit ami du prince Andrew, à Brooke Shields, en passant par la fille de Sinatra.
Les photographes, accourus sur la Côte d'Azur, suivent ce périple sans en perdre une image. La princesse sculpturale, assise sur le pont arrière du Jonical, le yacht des Al-Fayed, en train de plonger dans la Méditerranée ou sur l'annexe du bateau. Elle semble ne rien vouloir cacher. Elle affiche un bonheur provoquant, prête à toutes les audaces, jusqu'à ce cliché qui paraît à la une des tabloïds britanniques et fait le tour du monde. The kiss, le baiser. Diana et Dodi enlacés sur le Jonical. La romance de l'été se change alors en scénario sulfureux.
et un scandale pour la famille royale qui, même si elle a rompu les ponts avec Diana, se retrouve éclaboussée par cette plongée dans la Grande Bleue. Mais la princesse se moque des usages. Elle est libre et entend bien le faire savoir. À une amie, elle confie qu'elle est amoureuse, un peu comme une adolescente qui raconterait son premier flirt d'été. Les rumeurs courent, les nouvelles fusent. Mohamed Al-Fayed, détesté par Buckingham, savoure sa revanche. Il finance aussitôt une bague de fiançailles commandée chez un grand joaillier de la place Vendôme à Paris, à un jet de pierre seulement de l'hôtel Ritz où le couple est annoncé. Le samedi 30 août, Dodi et Diana sont à Paris. Elle fait quelques courses sur les Champs-Élysées, c'est une émeute. Dans la soirée, coursée par les paparazzi, le couple dîne au Ritz, rideau tiré dans un salon particulier. Puis à 23h45, départ pour l'hôtel particulier des Al-Fayed. Mais la course effrénée de Diana au bonheur va se fracasser quelques minutes plus tard à 198 km/h dans le tunnel de l'Alma.
On apprend à l'instant que Lady Diana vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture survenu sous le tunnel de l'Alma à Paris. Apparemment, elle était accompagnée de Dodi Mohamed Al-Fayed, son ami.
Dodi a été tué sur le coup. Longtemps, les pompiers, les médecins essaieront de faire battre le cœur de cette princesse qui cherchait éperdument à être aimée. Mais il ne repartira pas. Les yeux tristes de Diana se fermeront aux premières lueurs du jour.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourself where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Footsteps will always fall here along England's greenest hills.
Restez avec nous dans nos plus belles histoires d'amour sur RTL. Tout de suite, je reçois la journaliste Isabelle River. C'est la meilleure connaisseuse de la monarchie britannique. Elle va nous parler des amours tragiques de Lady Di.
Nos plus belles histoires d'amour. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Isabelle River, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la mort brutale de Diana à Paris, c'est un drame qui a causé un véritable traumatisme au sein de la monarchie anglaise? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours un petit peu sur ce drame-là?
À l'époque, c'est un choc, pas seulement pour la monarchie, c'est un choc pour le monde entier. Il faut se rappeler que Diana, à l'époque, d'abord, c'est une jeune femme qui n'a pas encore 40 ans. Elle est au sommet de sa popularité, c'est la femme la plus célèbre, la plus adulée, la plus photographiée au monde. Elle disparaît très brutalement, dans des circonstances extrêmement tragiques. Et en gros, le monde se réveille sous le choc à l'annonce de cette nouvelle. Il se trouve quand même que sa disparition, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle s'est faite, sa disparition va provoquer une onde de choc pour la couronne, qui va s'étendre sur plusieurs années. Ce sera la première fois d'ailleurs dans l'histoire du règne d'Élisabeth II que la souveraine elle-même et l'institution monarchique vont connaître une chute assez conséquente en termes de popularité. Donc oui, à l'époque, sa disparition est un séisme, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Vous êtes journaliste à Point de Vue, vous êtes l'auteur de Charles et Camilla, une histoire anglaise chez Fayard. Vous aviez déjà écrit un livre aussi chez Fayard sur Élisabeth II. Vous connaissez parfaitement la monarchie britannique, la famille royale. Comment expliquer à ce point que Diana soit toujours encore aujourd'hui une icône?
Je crois qu'il y a deux réponses possibles à votre question. La première, c'est que Diana, à l'époque où elle disparaît, son statut dépasse de très loin celui de princesse. Elle est devenue une star à part entière, une icône comme a pu l'être une Marilyn Monroe. Voilà, il se trouve en plus qu'elle disparaît brutalement, comme Marilyn Monroe, comme James Dean, dans un accident de...
Très jeune.
Très jeune. Et donc tout ça, si vous voulez, grave le mythe dans une forme d'éternité.
Oui, mais il y a toujours un mystère quand même. Comment expliquer cet attrait pour cette femme qui est belle, qui est princesse, mais des princesses qui sont belles, il y en a beaucoup.
À l'époque, si vous voulez, elle crée un précédent en ce qu'elle réussit à toucher l'opinion, à émouvoir l'opinion, comme aucun membre de la famille régnante de Grande-Bretagne ne l'avait fait avant elle. Après son mariage avec le prince Charles, il va y avoir un phénomène d'identification d'une intensité extrême qui va se cristalliser autour de sa personne. Les femmes vont toutes rêver de lui ressembler, les jeunes filles voudraient l'avoir comme amie, les hommes d'un certain âge comme fille, et puis les quadragénaires comme maîtresse. Donc c'est une femme dont la vie, dont les actions, dont les paroles savent parler à tout le monde. Et c'est ce qui fait de Diana en fait un phénomène encore unique dans les histoires de la royauté britannique.
Avec une histoire amoureuse qui est compliquée. Quand elle rencontre le prince Charles, il y a des sentiments, il y a de l'amour, même si tout ça va se détériorer par la suite. Mais elle pense, et tous deux pensent d'ailleurs, qu'ils vont vivre une grande histoire d'amour.
Oui, on oublie, vous faites très bien de le mentionner. On oublie qu'à l'époque où ils se marient, en juillet 81, il y a des sentiments entre Charles et Diana. Simplement, ce qui les sépare, c'est-à-dire la différence d'âge qui a créé entre eux un gouffre générationnel, leur parcours aussi respectif, la différence en termes de culture, d'éducation, leur psychologie aussi, leur caractère, font que, alors qu'ils ont de l'affection l'un pour l'autre, sont incapables de se comprendre. Elle est incapable de répondre aux attentes du prince Charles, de la même manière que lui est incapable de répondre aux attentes, aux besoins affectifs très très forts de sa jeune épouse. Tout ce qui va expliquer le parcours amoureux de Diana, et ce jusqu'à la fin de sa vie, c'est cette enfance traumatisée très tôt.
Avec le divorce de ses parents,
le départ de sa mère qu'elle va vivre comme un abandon, comme un choc, qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Il y aura chez elle une incapacité à recevoir l'amour qu'on peut lui témoigner.
C'est-à-dire qu'elle ne va avoir de cesse d'essayer de trouver du réconfort, une sécurité.
Elle va passer le plus clair de son existence à chercher l'homme fort, l'homme rassurant, le roc, qui va pouvoir l'apaiser et qui va pouvoir être celui sur lequel va reposer son quotidien, va reposer toute sa vie.
I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you.
La rupture avec Charles, c'est quelque chose de dramatique?
Je suis persuadée, comme beaucoup de membres de son entourage, qu'à aucun moment elle n'a souhaité divorcer du prince Charles. Jusqu'au bout, elle pensera pouvoir sauver son mariage, tout en conquérant un espace de liberté, si vous voulez, qui rendrait ce mariage plus vivable à ses yeux.
D'ailleurs, dès qu'elle s'est séparée du prince Charles, elle se sent une femme libre.
À partir du mois de décembre 92, qui est la date à laquelle sa séparation avec le prince Charles est annoncée par le Premier ministre
officiel,
John Major, devant le Parlement, Diana va se lancer dans une quête de libération, qui va être une quête de libération chaotique, qui va se matérialiser par des histoires d'amour qui vont, pour la plupart, mal se terminer, par un changement de quotidien aussi, un changement dans son travail, un changement d'orientation dans son action humanitaire et caritative. Il n'en reste pas moins qu'il y aura, et ce jusqu'à la fin, cette obsession en fait, de trouver, mais plus que l'âme sœur, c'est-à-dire l'homme fort, l'homme qui sera capable de la protéger. Et c'est cette notion de protection qu'elle trouvera de manière très différente, effectivement, pour chacun, parce que ce sont deux hommes qui ne se ressemblent pas, mais c'est cette forme de protection, de réassurance qu'elle trouvera successivement chez Asnat Khan et chez Dodi à la fin de sa vie.
Alors Asnat Khan, c'est important dans l'histoire de Diana. Elle pensait vraiment que c'était vraiment l'homme de sa vie. Elle a tout fait pour ça, ou elle a brisé ce qu'elle voulait? Est-ce qu'elle a elle-même cassé son rêve?
Ce qui est étonnant dans son idylle avec Asnat Khan, c'est que la plupart de ses proches, de tous ses confidents, enfin ceux qui l'ont vraiment connu intimement à cette époque-là, ont tous des avis très partagés sur la question. Elle rencontre Asnat Khan, qui est donc un chirurgien d'origine pakistanaise, en septembre 95, alors qu'elle se rend en visite à l'hôpital Royal Brompton à Londres. Elle est tout de suite subjuguer. De toute façon, il y a quelque chose physiquement qui les attire.
Elle dit
l'un envers
l'autre.
Il est très beau. Il y a une alchimie entre eux. Voilà, c'est, ça c'est très très clair. Il y a aussi quelque chose de très rassurant. Encore une fois, chez lui, il vient d'une famille très soudée, très unie. C'est un homme qui est très respectueux des traditions qui sont celles de son pays, hein, du Pakistan. Tout cela parle intimement, très profondément en fait, à Diana qui, pendant plusieurs semaines, va lui montrer voilà, tout l'intérêt qu'elle a pour lui. Et puis les sentiments finissent par suivre de son côté à lui aussi. C'est certainement la grande idylle de son existence qui va durer 2 ans. 2 ans au cours desquels elle va tenter de convaincre Asnat Khan qu'il est l'homme de sa vie, qu'elle peut refaire sa vie avec lui, qu'elle peut devenir Madame Khan, embrasser les traditions pakistanaises, qu'elle veut refonder une famille avec lui, et lui sera jusqu'à pendant 2 ans torturé par des doutes qui font que un happy end entre eux ne sera jamais possible.
Nos plus belles histoires d'amour sur RTL. Les amours de Diana.
Alors Isabelle Rivère, là, il y a aussi une terrible déception amoureuse. Il y a eu la déception avec Charles et puis avec Asnat Khan. C'est la même chose. Elle ne réussit pas finalement ce qu'elle veut.
La fin des deux histoires, son histoire d'amour avec le prince Charles et celle de son histoire d'amour avec Asnat Khan, ne sont pas tout à fait comparables. Rarement, Diana dira des choses désagréables sur le prince Charles. Elle aura toujours pour lui, jusqu'au moment du divorce et encore après l'officialisation de leur divorce, époque à laquelle ils se réconcilient d'ailleurs progressivement, elle aura toujours des paroles amicales, bienveillantes,
d'affection,
affectueuses pour lui. Parce qu'elle a, même s'ils ne se sont jamais vraiment ni compris, ni elle a toujours reconnu en lui de vraies qualités et elle a quasiment jusqu'au bout souhaité former avec lui cette formidable équipe en fait au service des Britanniques, des associations caritatives de la couronne, qui était vraiment leur intention à tous les deux dès le départ. Ils étaient unis au moins par ça. Ils étaient unis profondément par l'amour de leurs enfants, mais aussi par la volonté de former cette équipe au service de la monarchie. Pour Asnat Khan, c'est différent. La déception n'est pas la même. Diana vit comme un échec. Le fait de ne pas avoir réussi à convaincre Asnat Khan de s'engager vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire tout simplement de la demander en mariage. Jusqu'au bout, Asnat Khan a eu peur d'épouser Diana parce qu'il ne veut pas devenir Monsieur Diana, il ne veut pas devenir Monsieur Princesse de Galles. Il lui demande « Mais comment vas-tu faire ?» puisque un remariage aurait sans doute eu des conséquences en termes financiers, matériels, pour Diana, qui aurait sans doute perdu une partie des avantages liés aux accords qui avaient été passés au moment de son divorce. Et donc il lui dit, mais est-ce que tu vas pouvoir vivre avec moi dans mon 2 pièces? Est-ce que mon salaire de 2000 et quelques livres par mois va nous suffire? Est-ce que c'est un train de vie auquel tu vas pouvoir t'habituer? Et Asnat Khan aussi se demande si ses parents, et notamment sa mère, qui est un peu la gardienne des traditions dans sa famille, verra finalement d'un très bon œil ce mariage.
C'est ça, c'est le doute l'emporte.
Le doute l'a emporté, le doute, la peur l'ont emporté sur le reste. Et ça, Diana le vit comme un échec terrible.
Alors il y a une évidence, Isabelle Rivère, qui se pose aujourd'hui, c'est que finalement, dans l'impression qu'elle s'est jetée dans les bras de Dodi, par dépit, parce qu'il était là, tout simplement.
Alors je ne sais pas si on peut qualifier la présence de Dodi de concours de circonstances. Elle accepte la proposition de Mohamed Al-Fayed, le milliardaire égyptien, propriétaire.
Qui connaît sa famille. Hein,
oui, Mohamed Al-Fayed connaissait très bien son père, le comte Spencer, et connaît très bien Rain Spencer, qui est sa belle-mère, qui était la dernière épouse du comte Spencer. Donc c'est un homme avec lequel elle entretient depuis très longtemps des relations qui sont sans être amicales, enfin en tout cas sont cordiales. Et Mohamed Al-Fayed l'a invité déjà à plusieurs reprises à passer des vacances dans sa propriété de Saint-Tropez. Il renouvelle son invitation cet été-là. C'est vrai que ça tombe à un moment où Diana est très déstabilisée par ce qui se passe avec Asnat, par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de le conduire à s'engager vis-à-vis d'elle. Et donc elle accepte son invitation. Et Mohamed Al-Fayed appelle son fils, qui a à peu près le même âge que Diana, en lui disant « Viens tenir compagnie à la princesse pendant ses vacances ». C'est comme ça que tout commence.
Comment est-ce qu'il a séduit
Encore une fois, je crois simplement que Dodie arrive dans sa vie à un moment où elle a besoin de réconfort, d'être rassurée. Les vacances avec Dodie se déroulent dans un luxe assez inouï.
Il la couvre, sur ce yacht, hein,
sur le Jonical, il la couvre de cadeaux. Ses moindres désirs sont exaucés dans la minute. Il y a quelque chose finalement de très apaisant. Et puis, elle a une forme d'entente intellectuelle, en tout cas, avec le fils de Mohamed Al-Fayed, qui lui aussi est l'enfant d'un foyer désuni. Il a été séparé de sa mère très tôt. Et c'est un traumatisme chez lui. Et donc, leurs deux expériences douloureuses se rejoignent.
S'accordent.
Voilà. Elle trouve en lui un interlocuteur qui est capable de comprendre ce qu'elle a vécu elle-même étant enfant.
Alors, il y a cette fameuse scène que les tabloïds anglais ont évidemment publiée, la scène du baiser.
Autant son idylle avec Aznad Khan s'était déroulée dans un secret absolu pendant plusieurs mois. Autant là, effectivement, ce qui étonne, c'est la manière dont elle expose sa nouvelle histoire d'amour aux yeux du monde.
Est-ce que, d'après vous, il y a une part de provocation, de mise en scène ?
Je disais, à l'époque, il n'y a pas de provocation. Je crois qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Il y a plusieurs choses qui jouent. Cet été-là, Camilla fête son 50e anniversaire. Le prince Charles a organisé pour elle toutes sortes de festivités à Highgrove, sa propriété du Gloucestershire. Et peut-être que Diana vit assez mal, en fait, le fait que Camilla commence à sortir de l'ombre, que le divorce permet à Camilla de sortir de l'ombre.
C'est un message qui est envoyé ?
Je pense que si message il y a, il est avant tout adressé à Aznad Khan.
Elle veut le rendre jaloux.
La manière dont elle rend public son idylle supposée avec Dodie Al-Fayed est effectivement une sorte, pas de défi, mais pas très loin, adressé à Aznad Khan en lui disant « Voilà, je peux être heureuse sans toi, je peux aussi être heureuse avec toi, encore, si tu le souhaites. »
Finalement, les contes de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça se termine toujours comme ça. Là, ça, c'est pas du tout la même chose, c'est un conte de fées moderne et dramatique.
Diana aura tout de même reçu beaucoup d'amour dans sa vie. Pas seulement l'amour des Britanniques, de ses compatriotes, pas seulement l'admiration, voire la vénération des opinions publiques du monde entier, mais de l'amour de la part d'hommes qui l'ont passionnément aimée.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une conclusion pour résumer, c'est qu'elle a cherché tout le temps l'amour, elle ne l'a pas trouvé. Bon, elle a été soutenue, aidée, mais pour elle, il n'y a pas de refuge.
L'une des obsessions, en fait, qui motivait son action humanitaire et caritative, se matérialisait toujours par la même phrase. Elle disait « Le drame des gens, c'est de ne pas se sentir aimé. Et la pire maladie qui existe au monde, c'est celle de ne pas se sentir aimé. » Diana a reçu beaucoup d'amour au cours de sa vie. Mais simplement, je crois que les traumatismes du passé, les traumatismes de sa petite enfance, l'avaient rendue en quelque sorte incapable de se rendre compte à quel point elle était aimée et elle pouvait être aimée. Donc jusqu'à la fin de sa vie, indépendamment de tout ce que Aznad Khan, par exemple, a pu lui donner, elle n'a jamais réussi à se sentir suffisamment aimée. Voilà. Je pense que le drame de cette femme, l'un des drames de cette femme était là.
Merci Isabelle Rivère d'avoir répondu à notre invitation sur RTL.
Merci à vous.